Bon réveil à tous, voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour à toutes et à tous. Donald Trump soulagé, peut-être relancé. Aux États-Unis, les premières conclusions du rapport Mueller dans le cadre de l'enquête russe ont été publiées hier. Un premier résumé établi par le ministère de la Justice laisse apparaître qu'il n'y a pas eu de collusion avec les Russes, mais beaucoup de questions se posent encore et les démocrates sont bien décidés à ne pas déposer les armes. Grégory Phillips, notre correspondant permanent aux États-Unis, nous attend à Washington.
Et puis dans l'est de la Syrie, après la chute de Baghouz, officiellement proclamée ce week-end par les combattants de la coalition internationale, quel avenir pour les Kurdes après la destruction du califat de l'État islamique? Comment agiront la Turquie et la Syrie? Correspondance de notre envoyé spécial Omar Waman.
Theresa May, donnée partante et présentée comme fragile depuis des semaines, pourra-t-elle survivre politiquement à celle qui s'ouvre, cette semaine qui s'ouvre au Royaume-Uni, alors que ne se dessine encore aucune solution claire pour le Brexit et que les pro-Europe ont manifesté en masse samedi à Londres? Plusieurs membres du cabinet de Theresa May ne se cachent plus pour demander un changement de Premier ministre.
Et puis nous irons également en Allemagne dans ce journal. Dans le cadre de notre matinale spéciale, nous retrouverons Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Avec lui, nous ferons le point sur la campagne pour les élections européennes.
À la fin de ce journal, Frédéric Seyss, dans son billet politique, évoquera les préparatifs d'une autre campagne en France, celle pour les élections municipales à Paris l'an prochain. Rendez-vous à 8h16. Aux États-Unis, l'enquête russe et les premiers éléments du rapport Mueller transmis hier soir au ministère de la Justice, éléments selon lesquels le procureur spécial et ses enquêteurs n'ont pas trouvé de preuves de collusion avec la Russie lors de la présidentielle de 2016, ni de la part de Donald Trump, ni de la part de son équipe de campagne. Gros ouf de soulagement hier à la Maison-Blanche.
So it's complete exoneration. No collusion, no obstruction. Thank you very much. Thank you.
Alors pour l'instant, ce qu'on connaît du rapport Mueller est très parcellaire. De nombreuses questions se posent et les démocrates n'entendent évidemment pas se montrer déstabilisés par ces premières conclusions. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Notre correspondant permanent à Washington, on l'a entendu, Trump, au moment de rentrer de son week-end en Floride, était hier soir visiblement très pressé de tourner la page. Ce sera peut-être pas aussi facile.
Non, parce que ce qui s'est passé hier, c'est certes la fin des investigations menées par ce procureur indépendant, Robert Mueller, mais il y a d'autres initiatives parlementaires notamment qui sont en cours pour voir si dans le cadre de cette enquête russe, Donald Trump a tenté, oui ou non, d'entraver le bon fonctionnement de la justice. Mais il faut reconnaître, Benoît, que les conclusions dévoilées hier sont une très bonne nouvelle pour le président américain. Vous savez, lui qui dénonçait cette chasse aux sorcières menée contre lui depuis 22 mois, eh bien, il lit comme nous ses conclusions. Oui, la Russie a bien tenté d'interférer dans la présidentielle américaine de 2016, mais non, il n'y a pas eu de collusion avec son équipe de campagne, ni même avec lui, et ça, Trump l'a toujours dit, donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour lui. En revanche, c'est vrai aussi que ce qu'on a lu hier soir, c'est seulement un résumé de 4 pages de l'enquête du procureur Mueller, et 4 pages rédigées par le ministre de la Justice, William Barr, qui est donc un homme du président, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les démocrates exigent la publication immédiate et intégrale de ce rapport du procureur afin que tout le monde puisse se faire une idée et ce en toute transparence.
Alors revenons, Grégory, sur les accusations d'obstruction à la justice dans le cadre de cette enquête, accusations qui pèsent sur Trump et sur son administration depuis l'installation de Robert Mueller. Le secrétaire à la justice, William Barr, est très clair, hein, pas de preuve de tentative d'obstruction donc, mais pas non plus de preuve d'innocence.
Oui, alors vous avez raison, et ça c'est un point plus délicat pour la Maison-Blanche et qui va à l'encontre de la déclaration de Trump que vous nous avez fait entendre à l'instant. Non, sur le plan de l'entrave à la justice, le président n'est pas tout à fait blanchi. Le procureur dit qu'il ne peut pas conclure que Trump s'est rendu coupable d'un délit, mais qu'il ne peut pas non plus le disculper pour autant. Et ça, cette éventuelle obstruction à la justice, ça peut être par exemple le limogeage brutal il y a 2 ans, au printemps 2017, de l'ancien patron du FBI, James Comey. Donc sur ce point précis, non, Trump n'est pas disculpé, en tout cas pas entièrement. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de pouvoir lire évidemment intégralement le rapport confidentiel du procureur Robert Mueller afin de savoir exactement ce qu'il a trouvé là-dessus, éventuellement au terme de ces 675 jours d'investigation.
Merci Grégory Phillips depuis Washington ce matin pour France Culture. Trump, quoi qu'il en soit, est visiblement bien décidé à pousser son avantage, notamment sur la scène diplomatique. Il reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est en campagne pour des élections compliquées. Benjamin Benjamin Netanyahou à qui il pourrait faire le cadeau de la reconnaissance officielle de souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, tête à tête dans le bureau ovale en milieu de journée, suite à quoi Benjamin Netanyahou retournera en Israël plus vite que prévu. Il vient de l'annoncer après qu'une roquette a été tirée sur une maison au nord de Tel Aviv. Il y a 5 blessés.
8h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Benoît Bouscarel. Au Moyen-Orient, Donald Trump entend bien capitaliser aussi sur la chute de Baghouz, proclamée officiellement ce week-end par les forces démocratiques syriennes.
Elle marque cette chute, la fin attendue du territoire du califat autoproclamé de l'organisation État islamique. Elle marque surtout le début d'une période de doute pour les Kurdes de Syrie, désormais pris entre les menaces d'Ankara, bien décidés à ne pas les laisser capitaliser sur leur victoire contre les djihadistes, et le peu d'empressement syrien à leur donner plus d'autonomie. Les précisions de notre envoyé spécial en Syrie, Omar Waman.
Après leur victoire dans le réduit djihadiste de Baghouz, les Kurdes se préparent désormais à affronter leur ennemi de toujours, la Turquie, prête à en découdre avec ceux qu'elle considère comme des terroristes. Seul espoir pour cette minorité du nord-est de la Syrie, que Donald Trump renonce à retirer toutes ses troupes. C'était son projet avant finalement de décider de garder pour un certain temps seulement 400 soldats américains sur le sol syrien. Devant un allié aussi peu fiable, aussi peu reconnaissant du sang versé, les Kurdes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le régime de Bachar el-Assad, qui les a marginalisés par le passé et qui aujourd'hui menace de reprendre le contrôle de ces territoires perdus par la force. Pris en étau entre le marteau turc et l'enclume de l'armée syrienne, les Kurdes disposent d'un énorme moyen de pression. Les milliers de djihadistes qu'ils retiennent dans leur prison de fortune, des terroristes qui pourraient prendre la fuite si ces Kurdes, privés de leur parapluie américain, se retrouvaient à la merci de leurs ennemis.
Omar Waman. Au Royaume-Uni, Theresa May face à une fronde de son propre cabinet. Depuis hier, dans un contexte de forte mobilisation des anti-Brexit descendus dans la rue en masse samedi et signataire d'une pétition qui a recueilli plus de 5 millions de signatures, les tentatives de déstabilisation vont bon train et les événements se précipitent à Londres. Marina Daras.
Theresa May doit tenir ce matin une réunion officielle de son cabinet à Downing Street. Elle y dévoilera sa nouvelle marche à suivre concernant le Brexit, alors que de nombreux députés réclament son départ. Certains d'entre eux tenteront d'ailleurs mercredi, grâce à des amendements, de prendre le contrôle de l'agenda parlementaire aux dépens du gouvernement. Cela permettrait alors à la Chambre des communes de tenir une série de votes indicatifs sur différentes options du Brexit, dans l'espoir qu'une majorité de députés se prononce en faveur d'une même solution. Les options proposées devraient inclure un deuxième référendum, un accord similaire à celui de la Norvège, une adhésion permanente à l'union douanière ou encore l'annulation complète du Brexit. L'ancienne ministre du Travail, Yvette Cooper, a elle aussi l'intention de déposer un amendement qui demanderait au gouvernement un délai supplémentaire à l'UE si un accord de retrait n'est pas approuvé d'ici jeudi. Si Theresa May décide finalement de soumettre son accord à un troisième vote, elle pourrait le faire mardi ou jeudi, en espérant que les Brexiteurs les plus tenaces se rallieront à sa cause par peur de voir un second référendum ou une plus longue extension de l'article 50 être mis en place et de voir le Brexit s'envoler à jamais.
À Londres, Marina Daras.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec Benoît Bouscarel. Après avoir reçu Eri De Luca, Michael Ignatieff et Emmanuel Demarcimota, eh bien nous recevons une autre grande voix, Benoît, un philosophe allemand, un conservateur de gauche comme il aime à se définir, Peter Sloterdijk, ancien recteur de l'université de Karlsruhe.
Dans la perspective bien sûr des élections européennes du mois de mai, on va y revenir. C'est l'occasion aussi pour nous cette matinale spéciale d'évoquer la première réunion aujourd'hui à Paris de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. De quoi s'agit-il? On retrouve en direct de Berlin Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes
et à tous. Notre correspondant permanent en Allemagne, une nouvelle instance franco-allemande. Donc de quoi s'agit-il et à quoi sert-elle?
À combler un vide, hein. Il y a les jumelages, les échanges de jeunes au niveau culturel et éducatif. Il y a au plus haut niveau celui de l'exécutif, des conseils des ministres franco-allemands et les rencontres régulières entre le président de la République française et la chancelière fédérale allemande. Mais il n'y avait rien du tout au niveau parlementaire. Là où s'élabore la loi, l'enjeu est donc d'harmoniser l'action politique des deux pays, de faire converger autant que possible Paris et Berlin sur les questions de défense, par exemple, ou de politique étrangère. Ces 100 députés vont se réunir au moins 2 fois par an, alternativement en France France et en Allemagne, ils vont surtout apprendre à se connaître, à se parler, à réfléchir ensemble. Jusqu'alors, de telles pratiques n'existaient tout simplement pas. Ils vont proposer des textes aussi qui seront ensuite débattus puis votés dans chacune des deux assemblées de façon souveraine. Donc, ça c'est une réponse aux critiques, car converger et converger encore tout en préservant la souveraineté de chaque pays ne saute pas forcément aux yeux. Cette assemblée franco-allemande devrait aussi contrôler les engagements et les décisions prises dans le cadre du récent traité signé à Aix-la-Chapelle. En Allemagne, la création de cette assemblée n'a pas été prise à la légère. On est dans un système parlementaire ici et la presse en a beaucoup parlé car elle suit de très près, c'est une habitude, l'activité du Bundestag, beaucoup plus qu'en France en tout cas, et son régime présidentiel, Benoît.
Alors revenons, Ludovic, aux perspectives politiques européennes. En Allemagne, les deux principales forces politiques ont ou vont présenter leur programme en vue du scrutin. Samedi, le SPD a donné dans le social et le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les conservateurs de l'alliance CDU-CSU, emmenés par AKK, seront plus tentés de parler défense. Alors une campagne classique qui se lance, Ludovic, dans un contexte de grande coalition. Quelles seront les lignes de clivage ?
Bon, programme, vous l'avez dit, ces deux grands partis d'une facture tout à fait classique n'allaient pas chercher de propositions qui sortent vraiment de l'ordinaire. Pour résumer, ce serait Renten contre Rüstung, les pensions de retraite pour la gauche et l'armement pour la droite. Les sociodémocrates promettent de se battre en effet pour un niveau de vie et un travail décent, un salaire minimum commun aux Européens. Ils défendent d'ailleurs en ce moment en Allemagne la création d'un minima social pour les retraités, une pension de retraite de base garantie pour tous. Les conservateurs, eux, vont choisir cet après-midi d'insister sur la sécurité, la défense, l'Europe de la défense, emmenée par leur nouvelle chef, vous l'avez désigné par son surnom AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ils répondent ainsi favorablement au président américain Donald Trump, qui accuse l'Allemagne de ne pas consacrer suffisamment d'argent au budget de la défense. Finalement, ce qui saute aux yeux, Benoît, c'est que cette campagne des Européennes en Allemagne est l'occasion pour chacune de ces deux grandes forces politiques qui gouvernent ensemble de régler une question interne à l'Allemagne, la succession d'Angela Merkel, qui occupe, vous l'imaginez bien, l'essentiel des débats politiques.
Merci Ludovic Piétenu, correspondant permanent de France Culture en Allemagne, en direct de Berlin. Le président chinois Xi Jinping est en visite d'État en France depuis hier. Pendant 3 jours, l'enjeu est d'éclairer au mieux l'avenir des relations économiques et diplomatiques entre Chine et Europe. Demain, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se joindront à Xi Jinping et Emmanuel Macron pour une réunion de travail à l'Élysée. À Paris, l'ouverture du procès en appel ce matin d'Abdelkader Merah et de Feta Malki sur demande du parquet. Une nouvelle cour d'assises spécialement constituée de 7 magistrats professionnels va rejuger les deux hommes pour tenter de faire la lumière définitive sur leur niveau d'implication dans les crimes de Mohamed Merah il y a tout juste 7 ans à Toulouse et Montauban. Une enquête a été ouverte hier par le parquet de Nice pour tenter de faire la lumière sur les faits qui ont occasionné de graves blessures à une septuagénaire samedi à Nice. Lors d'un rassemblement de gilets jaunes dans le centre-ville, la militante associative est tombée lors d'une charge policière. Elle s'est cognée la tête et a dû être hospitalisée. David Di Giacomo.
Les images de vidéosurveillance seront déterminantes. Le procureur de Nice précise qu'elles sont de très bonne qualité. Elles sont toujours en cours d'exploitation. Le magistrat a également saisi les images de France 3 Côte d'Azur. Il doit déterminer dans quelles circonstances exactes cette militante de 73 ans est tombée juste après la charge des policiers. Des fonctionnaires qui avaient l'ordre de disperser un rassemblement, ils se tenaient sur la place Garibaldi où il était interdit de manifester. Geneviève Leguet a heurté un poteau métallique. Elle souffre de plusieurs fractures au crâne, mais ses jours ne sont plus en danger. En solidarité avec cette militante d'attaque, décrite comme non-violente, un rassemblement est prévu ce soir à Nice, sur la place Garibaldi.
Et comme si son objectif était de mobiliser un peu plus les soutiens à Geneviève Leguet, qui vont se réunir donc ce soir, ce matin, Emmanuel Macron lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse dans un entretien à Nice ce matin. La réforme du droit d'auteur au niveau européen, question éminemment complexe et politique au menu des parlementaires européens qui vont devoir en débattre à partir de demain. Il s'agit de dépoussiérer les mécanismes de protection des auteurs et de faire entrer les grands acteurs du numérique, notamment les GAFAM, dans l'équation. Eux qui jusqu'à maintenant profitaient allègrement d'un vide juridique pourraient avoir à mieux rémunérer la création. Explication de David Ravier.
Jusqu'à maintenant, les géants du net comme YouTube, Facebook ou Twitter sont considérés comme des hébergeurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des contenus que les utilisateurs mettent sur leur site. Par exemple, si vous mettez en ligne des vidéos ou de la musique dont vous n'avez pas les droits, ce n'est pas la plateforme qui est attaquée, c'est vous. La nouvelle directive sur le droit d'auteur changerait cela en faisant passer la plateforme du statut d'hébergeur à celui de responsable des contenus, Dans les faits, cela veut dire qu'elles devront rendre des comptes aux ayants droit si les contenus qu'elles hébergent violent le droit d'auteur. Cela implique donc que les plateformes fassent du tri en amont et en aval, une mesure liberticide pour les détracteurs de l'article 13. De plus, la rémunération des ayants droit sera calquée sur ce qui se fait en télévision, avec une partie payée par la personne qui utilise l'œuvre d'un auteur et aussi par la plateforme qui l'héberge. Et c'est l'un des gros changements, puisque YouTube, Facebook ou Twitter, par exemple, devront verser une partie de ce qu'ils ont gagné aux ayants droit grâce à leur contenu. Enfin, et cela fait partie des autres points à débattre, des exceptions pour les sites qui ont moins de 3 ans, qui ont moins de 5 millions de visiteurs par mois, qui engrangent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui sont à but non lucratif, comme Wikipédia, pourraient passer entre les mailles du filet avec cette directive.
David Ravier, un temps plutôt nuageux ce matin avec quelques précipitations attendues, notamment sur les reliefs de l'est du pays. De belles éclaircies attendues au fil de la journée dans le sud. Dans l'ensemble, le soleil peinera quand même à s'imposer d'après Météo France. Température maximale comprise entre 14 et 23 degrés les matins de France Culture avec Guillaume Hermer.
Merci Benoît Bouscarel. Dans quelques instants, on va poursuivre cette galerie de grandes voix européennes dans la perspective des élections de mai, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un grand philosophe allemand très provocateur, très rare aussi dans les médias. Peter Sloterdijk, on va le retrouver dans quelques instants, dans une trentaine de minutes. Il y aura de la nutrition sportive dans la conclusion d'Aurélien Bélanger et Toutankhamon sera à l'honneur dans le billet culturel de Mathilde Serrel. Tout autre chose avec vous dans le billet politique, Frédéric Seyss. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Paris, bonjour à tous. Paris sans Toutankhamon, je crois.
Oui, exactement. On n'est jamais mort en politique. Vous connaissez
c'est
le dicton. Et bien voilà quelqu'un, outre Toutankhamon, qui peut en témoigner. C'est Anne Hidalgo.